ou pas? Telle est la question. De quoi? De l'humour? Du courage et de l'énergie? De la volonté et du charisme? Ça fait souvent la paire, en principe, en avoir, et c'est le septième ciel, le triomphe assuré. Ou pas? Et la flope des bandades, reste plus qu'à remballer. Ah, si ma tante en avait!
Pascal Paradou.
Ah, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Ce n'est pas très élégant, mais ne tournons pas autour du pot. Nous allons parler aujourd'hui de concepts, de valeurs, de mots, mais aussi un peu d'anatomie avec Mariette Darigrand qui s'intéresse à un mot devenu inflammable, la virilité. Bonjour Mariette Darigrand.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, vous dirigez un cabinet de conseil qui s'intéresse au discours médiatique, des faits et des signes, et vous publiez un court essai sur la virilité intitulé « Viril comme Vénus ». Mais avant de déflorer votre propos, sémiologue, cela demande à être précisé. Ça veut dire quoi, un sé ou une sémiologue ?
Ben c'est quelqu'un qui s'intéresse aux signes et qui s'intéresse à la société à travers les signes qu'elle envoie, c'est-à-dire ses langages. Ça peut être le langage politique, ça peut être le langage de la chanson, ça peut être le langage du sport, peu importe, hein, ou de la musique.
Voilà. Et donc c'est un terme médical au départ, inventé par la médecine.
C'est tout à fait un terme médical parce qu'en fait, les signes à interpréter en urgence, en priorité, évidemment, ce sont les signes du corps. Est-ce que la fièvre, la rougeur, etc. Et ça a été transposé aux sciences humaines.
Donc c'est inventé par la médecine pour devenir un terme linguistique, donc vous disséquez les discours.
Exactement.
Pour aller vite. Avec un mot qui se répète dans les médias, dans la pub, dans les conversations en ce moment, et cela vous met en alerte forcément, c'est le mot virilité.
Oui, exactement. Alors, je suis le discours médiatique depuis plusieurs années. Donc, j'ai vu arriver quelque chose qui m'a vraiment surprise. C'est que lorsque sont montés les clashs, les polémiques, etc., très souvent, ces moments médiatiques, de télé en particulier, étaient qualifiés de virils. Ça voulait dire violent, en gros. Hein. Et ça m'a alertée parce que pour moi, le mot viril est très positif. J'aime beaucoup la virilité. Je suis originaire du Sud-Ouest et dans cette zone, le viril est toujours avec mais correct. Hein, dans le rugby, ils sont virils mais corrects. Hein, donc j'avais toujours eu en tête, ce sont des connotations personnelles, mais ça fait partie de notre manière de décrypter que cette notion, c'était, disons, le masculin quand il va bien, quand il est en forme, une sorte de force tranquille et d'une certaine façon le contraire de la violence.
Et aujourd'hui, donc, ce terme est devenu, j'aime beaucoup cet adjectif, inflammable.
Oui, parce qu'il fait partie, et là je me situe vraiment dans une actualité récente, hein, en gros depuis le MeToo, qui a mis quand même en exergue une sorte de guerre des sexes, hein, probablement nécessaire pendant un temps, mais ça a effectivement rendu un certain nombre de termes inflammables, mettant le feu aux conversations. Donc moi je me suis servi d'une conversation en famille, qui m'a surprise, parce que, puisque pour moi le mot viril est positif, je l'ai entendu dans la génération suivante. Moi j'ai un fils, mais j'ai des nièces, et tout d'un coup, viril, ça voulait dire macho, ça voulait dire viriliste finalement. Donc ça m'a amené à travailler sur précisément la différence. Quelle est la différence entre virilité, la notion, et virilisme?
Donc il y a un glissement de sens, de mots et de sens.
Il y a tout à fait un glissement. D'abord les ismes, il faut toujours un peu s'en méfier, hein, parce que très souvent c'est une façon de faire un faux concept. Bon, donc là aujourd'hui on est dans un moment, disons, de pensée où les ismes sont faibles. En politique par exemple, il suffit d'avoir un homme politique macronisme ou mélenchonisme ou zémourisme, mais il n'y a rien derrière. Bon, donc il faut se méfier des ismes. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce qu'on veut dire par là, ce que veulent dire les jeunes femmes en particulier, ce sont précisément, c'est la virilité lorsqu'elle n'est pas régulée, lorsqu'elle n'est est excessive.
Donc elle n'est pas correcte, pour reprendre cet adjectif du Sud-Ouest.
Absolument, et exactement. Et si du coup cette métaphore, ce qui est intéressant avec le sport de contact, justement, qui pourrait être violent, qui d'ailleurs aujourd'hui est devenu violent, hein, entre parenthèses, eh bien c'est que on régule quelque chose. C'est comme une chorégraphie. Or, l'énergie vitale du corps, ce qu'est la virilité au départ, elle doit être régulée. Ça ne peut pas aller sans régulation. Et c'est valable pour d'autres énergies ou d'autres puissances, hein, même l'argent, etc. Donc c'était cette dialectique entre la puissance et la régulation qui m'a intéressée, qui m'a amenée à réouvrir le mot.
Alors la virilité qui symbolise le mâle par excellence, au passage, est un mot féminin. C'est pas inintéressant.
C'est pas inintéressant. Ben c'est, vous me faites penser à cette représentation du pouvoir où on a le prince, mais autour de lui, il n'y a que des notions féminines, les grandes vertus. Donc la tempérance, la concorde, la paix, ce sont toujours des notions féminines. Et d'ailleurs, la vertu, c'est la même racine que la virilité.
Et donc votre thèse, Mariette Darrigrand, est de démontrer que la virilité, finalement, n'est pas qu'une affaire d'homme.
Non, c'est une énergie non genrée au départ, elle est une affaire de mixité. Et c'est ça que je voulais défendre là, parce que, ok, bien sûr, il faut dénoncer la violence masculine lorsqu'elle s'exerce, mais je crois que pour protéger réellement les femmes, il faut plutôt travailler sur notre héritage de société mixte, ce qu'on a appelé le processus de civilisation à la fin du Moyen-Âge, mais c'était déjà dans le monde antique. Et nous sommes les héritiers vraiment très chanceux de cette manière de vivre ensemble, hommes et femmes. Il faut que tout le monde se régule.
Nous allons donc parler ensemble de virilité, mais aussi de vénusté. Mais avant, nous partons au pays des shoguns et des geishas, par la magie d'un coup de fil ailleurs. Bonjour Léa Guémard.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission livres et médiathèques à l'Institut français du Japon et vous organisez un festival littéraire joliment intitulé Feuilles d'automne. Parce que les Japonais sont très attentifs aux saisons et notamment à l'automne quand tout rougeoie.
En effet, on a cette culture des saisons au Japon qui est très très forte. Les Japonais aiment notamment aller regarder les arbres qui changent de couleur au cours de l'automne. Donc le nom de ce festival a une résonance particulière ici, d'autant qu'en japonais, on a ce terme « dokusho no aki », donc c'est le terme japonais pour feuille d'automne, qui se décline sous plein d'aspects différents. On a les feuilles d'automne, donc les livres que l'on lit en automne, on a la nourriture que l'on mange en automne, on a toutes les choses qu'on fait en automne, et ça se décline sur toute l'année avec le changement des saisons.
Alors pour cette 14e édition, vous mettez à l'honneur deux auteurs, Jacques Ferrandez, qui fait de la bande dessinée, et Marine Diaye, auteur de romans, de théâtre, prix Goncourt en 2009. Pourquoi elle? Est-ce qu'elle est lue au Japon ou au contraire, vous voulez la faire découvrir?
Alors, c'est peut-être les deux à la fois. On a son grand roman, Trois femmes puissantes, qui a connu beaucoup de succès au Japon et qui a trouvé son lectorat. Mais j'avais remarqué que depuis cette traduction qui a été faite quand même en 2019, donc 10 ans après sa parution en France en 2009, il y avait une sorte de tassement, donc j'avais voulu faire redécouvrir cet auteur qui est une conjugaison parfaite entre un style littéraire, c'est à la base les éditions de Minuit, donc assez institutionnalisé, et une sorte de modernité, une voix moderne, une voix de femme, une voix de femme aussi qui dépeint des paysages qui ne sont pas que ceux de la France et qui pouvaient être intéressants dans le contexte du Japon.
Quelle image a la littérature francophone au Japon?
Alors la littérature francophone au Japon, c'est assez ambivalent. Elle attire beaucoup de lectorat par ses grands noms, que ce soit Hugo, Verne, qui a été le premier roman traduit au Japon à la fin du 19e siècle.
Jules Verne.
Donc ses grands noms, Zola. Oui, ça a été le premier roman français traduit au Japon suite à une délégation japonaise qui était venue en France, appelé par le dernier des shoguns des Tokugawa, et qui était venu en France à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Et c'est de là qu'a commencé à prendre son essor, en fait, la traduction française au Japon. Et donc, on a cette image qui, parfois, peut être un peu passéiste. Et l'enjeu, c'est de se servir de cette image qui est toujours rayonnante et de lui insuffler aussi une certaine modernité.
Alors par exemple, l'attribution du nouveau prix Goncourt à Mohamed Mougarsar, est-ce que cela suscite de l'intérêt à Tokyo?
Alors bien sûr, les connaisseurs ont fait des retours sur ce prix, mais le prix Goncourt n'est pas encore tout à fait très connu au Japon, et c'est pourquoi à l'Institut français, nous travaillons actuellement à la mise en place de la liste du Japon du prix Goncourt. Donc c'est un projet que je vous invite à suivre pour les années suivantes.
Voilà une très bonne idée. Merci Léa Guémard, arigato gozaimasu. Ce sont mes mots en japonais. Feuilles d'automne se déroule jusqu'au 4 décembre.
D'abord, je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Mais toi déjà, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées. Pense à toi en tant que cible, ma belle enfant écartelée. Là, j'ai touché le point sensible. Attends, je vais m'y attarder. Temps de passer aux choses sérieuses, ma poupée jolie. Tu as envie d'une overdose de baise? Voilà, je m'introduis.
L'électro-moite de Baupin qui reprend les mots crus de Gainsbourg, Love on the Beat 1984, remix 2021, donc avec ce nouvel album d'Alex Baupin, et c'est sur RFI, évidemment. Mariette Darrigrand, vous, la sémiologue, autrice de Viril comme Vénus, que dire de cet érotisme gainsbourgien très 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 précis? Presque de la pornographie, hein.
Ah, il s'est toujours tenu à une frontière extrêmement ténue, mais ça, c'était sa délicatesse. Et qu'en dire, c'est très précieux. Pour moi, il est un des poètes qui s'inscrit dans le blason. Vous savez, cet art renaissant de description du corps féminin, et qui a été justement formidable et qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire, c'était la métaphore de la guerre. Autrement dit, la chose banale, en gros, c'est la violence et c'est la guerre, éventuellement entre les sexes. Et les poètes, les gens qui ont un esprit littéraire, sont capables de rendre métaphorique cette guerre. Et ça devient tout l'inverse. Ça devient au contraire la réunion des sexes, la possibilité de créer quelque chose ensemble. Et pas forcément le masculin-féminin traditionnel, mais la réunion de deux consciences, deux corps, quelle que soit la manière dont chacun réunit en soi le masculin et le féminin.
Mais Gainsbourg est intéressant car il est viril et féminin. D'ailleurs, la pochette de cet album, c'est lui déguisé en femme, et Baupin reprend la même pochette et la même iconographie. Vous diriez qu'il y a de la vénusté chez lui?
Absolument. Alors en plus, chez Gainsbourg, parce qu'il était un peintre au départ. Et la notion de vénusté, elle a été créée par les peintres qui voulaient rendre l'éclat de la peau de Vénus quand ils la peignaient. Et ils trouvaient qu'elle avait quelque chose qui était tout à fait particulier. Et en effet, ça référait... Alors c'est intéressant parce que le Vénus... C'était une énergie, comme on dirait le tonus, ou l'opus, c'est-à-dire le sens du travail dans le monde latin, c'est-à-dire une énergie que l'on voyait, mais comme un charisme, un éclat qui arrive sur un visage. Alors, chez Vénus, cet éclat, il est tellement fort qu'il est magique et il crée des choses, il transforme. Et les peintres ont essayé de le rendre, cet éclat du regard et de la peau. Et ils ont, à la Renaissance, Titien par excellence, puisqu'il a peint tellement de Vénus, c'est le grand spécialiste. Et donc ça s'est appelé la Vénustas.
Mais c'est l'équivalent de la virilité? Il y aurait la vénusté et la virilité?
Non, la vénustas était mise en complément de la dignitas. Et la dignitas, c'était une façon masculine d'avoir de l'éclat. Et ça ne référait pas à la même chose. C'était pas nécessairement un éclat de la peau, une beauté. C'était une façon d'être digne, c'est-à-dire qui c'est intéressant parce que qui est convenable, si on veut, qui convient, qui va dans la situation. C'est intéressant quand c'est le contraire, c'est inapproprié. Hein, quand par exemple Clinton a eu son geste inapproprié, et donc là, c'est pas digne de l'homme politique. L'homme politique doit être toujours approprié dans son comportement. Alors, de manière archétypale, on a mis ça sur le masculin et la beauté sur le féminin. Mais évidemment, et ça c'est la chance que nous avons aujourd'hui, et merci les gens comme Gainsbourg, on peut rendre le genre beaucoup plus fluide. Et donc la dignité peut être incarnée par une femme, et la vénusité par un homme. La virilité, c'est pour les deux.
C'est pour les deux. C'est là votre combat, Mariette Darrigrand, parce que vous pensez qu'il faut rééquilibrer ce rapport entre homme et femme, et vous dites, c'est le titre de votre essai d'ailleurs, viril comme Vénus, c'est-à-dire que les femmes peuvent être viriles.
Alors,
doivent être viriles presque.
Oui, je crois, doivent se réapproprier la notion, mais en allant, la sourcer, en voyant ce qu'elle voulait dire au début. C'est pas qu'au début, il y a la vérité, parce que moi, je suis sémiologue, comme dans la lignée de mon maître Barthes, Roland Barthes, et il disait bien, là où il y a du langage, il n'y a pas de vérité. C'est pas la vérité, c'est l'image. Or, qu'est-ce que c'est l'image première de la virilité? C'est la vis, V-I-S, c'est-à-dire l'énergie vitale, la grande force créatrice du monde. Et pour certains, par exemple pour Ovide, ben c'est comme Dieu, c'est-à-dire qu'on a le chaos, et puis pour mettre de l'ordre dans le chaos, pour que la vie humaine arrive, ou la vie des animaux, etc., il faut une vis. Voilà. Et donc ça, c'est pas genré. Et ça donnera virilitas, comme viriditas, c'est les arbres, etc. Et donc, si vous voulez, cette énergie qui n'est pas genrée, mais qui est très puissante, eh bien, au bout d'un moment, assez vite d'ailleurs, elle a été captée par l'univers masculin, puisque c'est intéressant comme force. Et donc, voilà, c'est comme ça.
Hein, donc, il y a eu un hold-up, en fait. Des hommes sur ce mot-là.
Des hommes, de l'idéologie. Hein. Les femmes sont complices de ça. Enfin, tout le monde s'est dit, bah, tiens, ça correspond quand même bien à la puissance masculine, cette chose-là. Mais bon, les femmes, et Vénus en particulier, pouvaient être dites viriles pour cette puissance, cet éclat, cette magie parfois d'un mot ou d'un comportement. Donc, il y a des femmes viriles dans l'Antiquité qui peuvent parfois faire descendre dans la rue pour s'opposer à une guerre, par exemple, ou pour s'opposer à quelque chose. Ça n'a pas été tellement investigué, mais c'était tout à fait intéressant, ou aller au forum. Et donc ensuite, par la suite, il y a des femmes viriles. Jeanne d'Arc était virile, si on veut, était courageuse, etc. Mais ce qui s'est passé beaucoup, c'est que puisqu'il y a ce rapt par les hommes, eh bien c'est devenu martial, c'est devenu un mot de l'armée, et en particulier de l'armée de Jules César. Donc au bout d'un moment, viril est abîmé dans quelque chose de viriliste et autoproclamé par les hommes. Je suis le nouvel empereur, je suis viriliste.
Un homme doit être viril, de toute façon. Il n'a pas le choix, presque.
Alors, dans la tradition, l'homme n'a pas le choix, il doit être viril. Dans notre actualité récente, l'homme n'a pas le choix, il doit avoir une part féminine. Donc, sa virilité a déjà été hybridée. Et ce qui, je trouve, est intéressant aujourd'hui, surtout compte tenu des rapports quand même très durs aujourd'hui entre hommes et femmes, l'opportunité, c'est de dire, mais on peut être viril tous ensemble. Pas de la même façon, on n'a pas forcément les mêmes corps. Mais on peut être viril au sens initial, originel, c'est-à-dire possédant une force venue de la nature, très dynamique, mais qui a un versant moral aussi. Il ne faut pas oublier que virtus, ça veut dire en latin avoir ça traduit le dynamos grec. Donc c'est avoir de la force physique, mais ça donnera vertu, c'est-à-dire avoir aussi de la force morale.
Alors vous introduisez la notion de vénusté, là où l'on s'arc-boute souvent sur la question de la virilité, et vous évoquiez l'affaire Weinstein 2017, où tout d'un coup ce mot ressurgit parce que aussi il y a un mouvement féministe fort qui apparaît. Et il y a en France un petit événement qui a fait le buzz, c'est l'apparition en 2017 d'un blog qui s'appelle « Les couilles sur la table », c'est celui de Victoire Toyon.
Dans cet épisode, nous discutons du discours sur la crise de la masculinité. Vous l'avez déjà entendu dans des conversations ou lu dans des journaux, cette idée reçue qui traîne dans les esprits comme la poussière dans les appartements. Il paraît que les hommes vont mal, que la virilité se perd, que les sociétés occidentales seraient hyper féminisées, que les hommes ne sauraient plus comment être des hommes, qu'ils seraient paumés et souffriraient beaucoup à cause des femmes et à cause du féminisme qui les brime et les opprime.
Voilà donc le sujet débattu toutes les semaines depuis presque 5 ans par ce podcast Les couilles sur la table, ça y est, c'est dit. Mariette Darrigrand, s'il y a malaise ou crise en ce moment, est-ce que ce serait la faute du féminisme ?
Non, bien sûr. Et d'ailleurs,
regardez pas comme ça.
non, parce que ce podcast est remarquable. C'est une jeune journaliste qui a vraiment mis, le débat sur la table, le débat intéressant. Et évidemment, il a toujours été reproché au féminisme d'être castrateur. Et il faut, enfin, personnellement, je m'inscris complètement en faux contre ça. C'est une peur plus ancestrale, en fait. La peur d'être dévirilisée, c'est une peur de la castration assez anthropologique. Et c'est pas seulement chez l'individu homme, c'est pour toutes les sociétés. La société a toujours peur de perdre de sa vigueur. Donc, le féminisme, ben oui, évidemment, mais parfois, c'est pour ça que je trouve qu'il faut être très mesuré et il y a certains éléments des coups sur la table qui sont à contester, à discuter. Et en particulier celui-là, ce qui m'a paru vraiment, il ne faut pas jeter la virilité avec l'eau du bain de la critique anti-sexiste. C'est ça le point, parce que les jeunes femmes qui ont écouté en masse ce podcast et d'autres, qui ont lu des livres qui déconstruisent la virilité, ont tendance à aller trop vite dans justement ce qui est critiquable et la violence doit l'être, parce que ce mot vice dont je vous parlais tout à l'heure, il a deux branches, c'est une souche qui a deux branches, là il donnera le mot violence et il donnera le mot virilité, et quand on les amalgame on a tort, il faut bien faire la séparation.
Mais le point d'équilibre est quand même assez compliqué à trouver. Et vous racontez d'ailleurs dans votre essai Viril comme Vénus, un dîner de famille où on vous traite de Catherine, en référence à Catherine Deneuve, qui avait signé au moment de l'affaire Weinstein une tribune où elle revendiquait avec d'autres, elles étaient à peu près une centaine, le droit d'être importunée par les hommes.
Oui, alors cette tribune était mal faite, mal écrite, maladroite, mais quelque chose me plaisait dans cette attitude. Je suis pour que le MeToo ait mis au jour l'étendue des dégâts en quelque sorte, mais pas du tout pour des formulations. Quand on est sensible aux formulations, par exemple, balance ton porc, pour moi était odieux. Ça, j'étais pas absolument pas pour ça, mais aussi pour aller trop vite et balancer justement. Notre tradition de la courtoisie, de la galanterie, ça avait déjà été mis en débat, ça. Et les femmes qui, disons, ont une dimension littéraire, qui aiment certains textes ou certains tableaux, elles font attention à ça, et je suis d'accord avec ça. Et ce que montrait, malheureusement, c'était en plus un concept qui venait d'un homme. Enfin, c'était un peu ridicule, mais je trouvais ça bien, surtout de la part de Catherine Deneuve, qui ne s'est jamais cachée qu'elle aimait les hommes. C'est une femme qui aime les hommes, qui aime les femmes, etc. Ben, je trouvais ça dommage de la réduire à, comme ça, quelqu'un qui dit n'importe quoi, en gros, par les jeunes féministes étaient allées un peu vite dans la critique.
Mais est-ce que ces jeunes féministes, justement, ne vont pas vite et sont peut-être un peu plus violentes qu'elles ne le devraient, si s'il y a une question de devoir, parce que on est juste à un point de base bascule des sociétés. C'est-à-dire qu'on passe d'une société patriarcale très dure à, non pas une société matriarcale, mais enfin, ce modèle patriarcal est fondamentalement ébranlé par tout ce qui se passe ces temps-ci.
Oui, mais ça fait longtemps. C'est la suite de quelque chose, c'est une filiation. Et je crois qu'il faut être honnête dans la critique du patriarcat, parce qu'il est quand même légèrement ébréché. Depuis un certain nombre d'années, le patriarcat. Donc,
moi. Mais il résiste quand même. Le débat aujourd'hui sur le genre, par exemple, les cis, les trans, etc., remet une couche, si j'ose dire, sur la question du patriarcat.
Je vois pas bien le rapport entre la critique du genre en tant que tel qui serait enfermant, et je suis bien d'accord, les stéréotypes de genre, etc. Chacun nous fait l'expérience. On n'entend plus les psychanalystes. Aujourd'hui, c'est plus une parole influente, mais ils ont montré depuis longtemps, bien sûr, que le masculin et le féminin étaient fluides en chaque être humain. Donc, ça ne s'invente pas aujourd'hui, quand même. Il ne faut pas exagérer. Et en plus, on a beaucoup de retard par rapport sur un plan idéologique, puisque le fameux livre de Judith Butler, sur le trouble dans le genre, elle est d'ailleurs passée à autre chose aujourd'hui. Il a mis 20 ans à être traduit.
Bon. 30 ans, oui.
Non, il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire qu'on n'invente pas tout. Quand on arrive devant le problème et qu'on le découvre, on n'invente pas tout. Donc, il faut bien se situer dans une filiation. Et je trouvais ça pour ça intéressant que des femmes plus âgées disent leur point. Et puis d'autre part, c'est intéressant cette critique aujourd'hui du patriarcat parce qu'il va avec d'autres critiques, disons un peu vintage, des années 70, le capitalisme, alors là on a plein d'ismes, l'extractivisme, et toutes les causes politiques aujourd'hui qui sont justes, sont mises en analogie, et du coup ça, c'est là où il faut être à mon avis vigilant, c'est que là on fait marcher notre pensée analogique, c'est-à-dire notre imaginaire, et tout, si vous voulez, fonctionne en cercle concentrique. Donc, on fait des liens entre le problème de l'écologie et le problème de la violence conjugale, par exemple. Hein. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, tout va ensemble, tout est systémique, hein, selon le terme utilisé. Et je pense que parfois, il faut être plus sériel, au contraire, et pour être efficace.
Alors, la question de la virilité est débattue par tous, par les femmes, mais aussi par les hommes, avec notamment cet exemple sur YouTube, Ben Nevert, qui a créé une chaîne à son nom, où il enregistre une émission baptisée Entre Mecs. Et voilà ce qu'il se raconte.
Et... Vous savez que vous êtes viril?
Ça fait c'est quoi cette phrase,
hein? Non, mais ça me fait déjà rire. Je me pose tellement pas la question.
Ouais, c'est ça,
je trouve
c'est
que c'est tellement ça, des capteurs que l'ancienne génération se posait et que nous, on se pose plus du tout. Nous, au contraire, l'ancienne génération, elle se disait pas, est-ce que là, je suis heureux? Et je pense que c'était ça aussi un de leurs soucis. Ils disaient, est-ce que là, je suis viril? Est-ce que je suis un bon homme de famille? Aujourd'hui, nous, on se dit plus ça, mais par contre, on se dit, est-ce que je suis heureux quasiment tous les jours? Est-ce que là, je suis bien? Est-ce que quand je le fais, je le sens? Est-ce que ça, c'est des questions que mon père ou mon grand-père, ils se posaient pas. Moi, ils disaient, ma famille, elle est nourrie. Ils ont l'air d'être plutôt bien. On va nickel, les petites crocs. Et c'est ça.
La question du bonheur contre celle de la virilité, Marie de Darrigan, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a en effet sur ces notions-là des appréciations et des regards assez différents en fonction des générations.
Je pense que ce qui se passe aujourd'hui et qui réunit hommes et femmes, c'est la montée d'un narcissisme universel. Donc c'est bien ça que dit ce jeune homme, hein. Mon bonheur, mon plaisir, mon bonheur, mon développement personnel, mon épanouissement passe avant mon appartenance à un genre ou mon appartenance à un monde en quelque sorte. Je pense que ça c'est une tendance sociétale énorme, planétaire, qui est très peu pensée par rapport au masculin féminin. Mais en fait, dans la guerre des sexes aujourd'hui, il y a aussi la guerre des égos et c'est inévitable. Nous sommes dans une société qui nous entraîne à jouir sans entrave. Hein. C'est fait depuis longtemps et pas forcément sexuellement. C'est fait par des consommations de nourriture, de substances, de séries télé, qu'importe. Nous sommes aujourd'hui, vous savez, Deleuze disait le pouvoir nous veut triste. Et aujourd'hui, on pourrait dire le pouvoir nous veut jouisseur comme des gros bébés. Hein. Il y a un peu quelque chose comme ça. Oui, c'est ça.
Donc, selon vous, il faut revenir à la notion première, originale, étymologique presque de la virilité que vous voulez définir comme un humanisme.
Oui, quelque chose qui serait, on parle beaucoup du terme épicène, vous savez, quand on dit, ben justement, narcissique, là, ça vaut pour tout le monde, hein, nous le sommes tous, mais fragile aussi, c'est pareil. Et donc, ces mots qui valent pour tous les sexes, pour toutes les ethnies, pour toutes les classes sociales, presque, enfin, avec des modalités différentes, ben, ils créent ce qu'on, l'épicène, et des choses épicènes, c'est-à-dire des choses, c'est comme épigénétique, ça va ensemble, on collabore, et du coup, chaque être, il est lui-même dans une forme de collaboratif interne. Après, qu'est-ce que nous pouvons faire les uns avec les autres? Bah, c'est du nouveau. C'est provoquer une troisième chose. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. Donc, c'est pas l'autosuffisance. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes menacés par une mythologie de l'autosuffisance et de la méfiance par rapport à l'autre. Et qu'il faut lutter contre ça. Parce que, en effet, l'humanisme, c'est une forme d'altérité.
Être viril, le ES ensemble. Merci Mariette Darrigan, Viril comme Vénus est édité aux Équateurs, qui est donc le nom de cette maison d'édition. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Jérémy Bessé à la réalisation. À demain.